Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Il est 20h en ce mercredi soir, merci d'être avec nous, bienvenue sur BFM Business. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Vous le savez, on est là de 20h à 21h30, du lundi au jeudi, 90 minutes de tech. Avec ce soir un Tech & Co exceptionnel, c'est un événement. Pendant une heure et demie, nous allons nous plonger dans le tourisme spatial. Voilà, une émission pour imaginer à quoi pourrait ressembler l'être humain dans l'espace dans quelques années. Avec notamment les ambitions spatiales d'Airbus, notre Frenchie qui est présent sur ce secteur. Les milliardaires, vous le savez, Branson, Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos qui investissent beaucoup d'argent pour le tourisme spatial et pour la découverte de l'espace. Et puis comment aussi se préparer à aller dans l'espace avec une invitée exceptionnelle, Laura André Boyer, qui a notamment entraîné un certain Thomas Pesquet. Elle sera avec nous dans Tech & Co, la quotidienne. Et cette émission, je vais la co-présenter avec Jean-Baptiste Huette, notre spécialiste aéronautique et spatial qui me rejoint sur ce plateau dans un instant. Merci d'être là. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne.
Édition spéciale sur BFM Business.
Space tout de suite. Eh bien, nous retrouvons, vous le connaissez, c'est Étienne Brack pour la spéciale Fed. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Je vous rends l'antenne dans 5 minutes, mon cher François, mais juste avant, en effet, priorité au direct avec donc la Fed, la banque centrale américaine, qui a communiqué à 19h cette fois-ci suite au changement d'heure, conférence de presse qui a débuté à 19h30. Pour commenter les annonces de ce soir de la banque centrale américaine, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Florian Roger. Bonsoir Florian. Merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Vous êtes responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas CIB. Le marché aime bien les annonces de la Fed, puisque vous avez trois indices américains qui ne faisaient rien. Et puis, à partir de 19h, ils se sont mis à grimper avec trois indices qui gagnent entre 0,4 et 0,7%. L'obligataire qui se détend, car oui, Jerome Powell va bien baisser les taux trois fois cette année. C'est en tout cas ce que laisse entendre la Banque centrale américaine.
Exactement. Ce qu'il faut noter, en fait, dans le communiqué de politique monétaire, c'est qu'il y a très peu de changements. Donc, sur les derniers mois, on a eu plutôt des surprises positives sur le front de l'inflation. Ce qu'on voit dans le communiqué de politique monétaire, c'est que ça ne change pas la stratégie de la Fed pour 2024. C'est-à-dire que la Fed veut réduire le caractère restrictif de sa politique monétaire, donc va baisser les taux, et effectivement, de trois fois, en fait, en 2024, trois fois 25 points de base. En termes de calibrage de politique monétaire, le marché regardait énormément les dot plots, c'est-à-dire les prévisions de taux d'intérêt sur les trois prochaines années. Donc, bonne nouvelle, en 2024, il y aura effectivement trois baisses de taux qui sont conservées. Là, quand on regarde les prévisions de taux d'intérêt, ce qu'on voit, c'est que les prévisions de taux d'intérêt de long terme sont légèrement relevées. Et donc, il y a besoin de moins de baisse de taux d'une certaine manière sur 2025-2026. Donc, le marché craignait, en fait, que les bonnes surprises sur le front de l'inflation amènent moins de baisse de taux sur 2024. Finalement, on a les mêmes prévisions et c'est plus sur 2025-2026 qu'on aura un petit peu moins de baisse de taux, d'où cette réaction positive des marchés.
En effet, c'est assez impressionnant de voir que, malgré le fait que la Fed revoit à la hausse sa prévision de croissance, 2,1% contre 1,3% anticipé en décembre, et puis là, Jerome Powell, dans sa conférence de presse, qui dit, malgré une forte croissance de l'emploi, c'est pas une raison de s'inquiéter pour l'inflation. C'est quand même assez étonnant d'entendre Jérôme Powell dire ça.
Ce qu'il faut bien noter, effectivement, dans les prévisions de croissance et d'inflation, c'est que sur 2024, vous avez 0,7 de prévision de croissance en plus, et vous avez simplement plus 0,2 sur inflation. Donc il y a une élasticité croissance-inflation qui est faible, et ce que note Jerome Powell dans sa conférence de presse, c'est qu'on a un choc cyclique d'offres qui est assez fort sur le marché du travail. Et donc, même si on a une croissance forte, on arrive à l'absorber sur le marché du travail, et ça entraîne peu d'inflation en plus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, pour les marchés, de se voir qu'on a davantage de croissance, vraiment plus de croissance prévue par la Fed, mais simplement un petit peu plus d'inflation sur 2024. Et surtout, on n'a pas de stigma sur 2025-2026. Puisqu'on a exactement, en fait, les mêmes prévisions d'inflation.
Jerome Powell ne donne pas de détails sur les premières baisses de taux depuis tout à l'heure. Il tourne un petit peu autour du pot. Comment vous voyez le calendrier de baisses de taux, sachant qu'il y a un certain consensus qui se met en place pour commencer dès le mois de juin?
Là, on conserve le même calendrier de politique monétaire. On avance dans l'année. À ce stade, avoir 3 baisses de taux, ça augmente la probabilité qu'on ait une première baisse de taux en juin. Et généralement, après un tel cycle de hausse de taux, quand vous baissez les taux d'intérêt, vous ne faites pas simplement 25 points de base de baisse de taux. Donc le plus probable aujourd'hui, c'est qu'entre juin et septembre, on ait 2 baisses de taux de 25 BP. Et après, comme il y a 3 baisses de taux prévues dans l'année, et ben en fait, on a toujours l'option, effectivement, d'avoir au moment de l'élection présidentielle une 3e baisse de taux. Donc l'idée, c'est juin-septembre, il y a une première séquence de moins 50 BP, d'après nous. Et là, on a une option qui est conservée par la Fed de continuer à baisser ses taux de 25 BP d'ici la fin de l'année. Oui, la probabilité d'avoir une première baisse de taux au meeting de juin a quand même fortement augmenté là, d'où cette réaction baissière sur le dollar.
Comment vous voyez la réaction du marché action hein, avec trois indices américains qui apprécient beaucoup cette communication? Nasdaq qui gagne quasiment 1%, vous l'avez dit, le dollar retrouve les 1,09 face à l'euro et puis l'obligataire qui se détend. Bon, le marché n'a visiblement toujours pas envie de faire une pause, le marché action en tout cas.
Quand on regardait les prévisions de marché, le marché attendait 3 baisses de taux sur 2024. Donc ça vient confirmer en fait les vues de marché. Mais comme on avait eu des surprises positives sur l'inflation, on avait un meeting de politique monétaire finalement qui était asymétrique. C'est-à-dire que si on avait une déception sur 2024, là on aurait pu avoir une correction assez forte du marché. Donc là, le marché est en train de pousser un ouf de soulagement. C'est plutôt un meeting qui est favorable pour le marché. Maintenant, il n'y a pas énormément quand même de surprise finalement dans ce meeting. Donc je suis pas sûr que cette réunion de la Fed entraîne en fait un rallye vraiment en fait durable des marchés actions. On a eu un rallye durable sur le mois de décembre parce qu'il y avait une vraie surprise avec le pivot de Powell. Là, on a plutôt un ouf de soulagement par rapport à un risque qui était asymétrique, mais on est plutôt en ligne en fait avec les attentes du marché.
Très clair. Merci beaucoup Florian Roger de nous avoir accompagné ce soir. Vous êtes responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas CIB et donc le marché qui apprécie cette communication de la Fed. Plus 0,9% pour l'indice Dow Jones, plus 1% désormais pour l'indice Nasdaq. L'euro dollar qui retrouve les 1,09 avec donc la Fed qui prévoit toujours 3 baisses de taux malgré une inflation qui est toujours collante, malgré une croissance qui sera supérieure aux attentes cette année puisque désormais la Banque Centrale Américaine prévoit une croissance de 2,1% contre 1,3% anticipé en décembre dernier. 20h06 sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez Tech & Co avec François Sorel. Très bonne soirée.
Édition spéciale sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business. Un grand merci d'être avec nous. On est ensemble, vous le savez, comme chaque soir jusqu'à 21h à la radio, à la télé, 21h30, pardon. Radio, télé, puis les replays, les podcasts. Pour une émission, je vous le disais tout à l'heure, exceptionnelle, puisqu'on va évoquer le tourisme spatial qui nous fait tous rêver, qui fait rêver aussi les milliardaires américains, mais vous allez le voir, des belles boîtes françaises aussi dans l'aéronautique qui commencent à s'y intéresser. D'ailleurs, quand on parle de tourisme spatial, on parle aussi d'exploration spatiale, hein, parce que évidemment, tous ces équipements qui vont nous permettre peut-être un jour d'aller tutoyer les étoiles, eh bien, sont aussi là pour faire de la recherche et pour envoyer tout simplement aussi des astronautes hein, dans l'espace. Jean-Baptiste Huette va nous accompagner tout au long de cette soirée. Salut JB.
Salut François.
Ravi de passer cette heure et demie en ta compagnie. Évidemment, tu es journaliste à BFM Business, on te connaît. Tu es un spécialiste, entre autres, de l'aéronautique et du spatial. Et on vous a concocté une émission vraiment hyper intéressante et hyper sympa. Tout à l'heure, Michel Messager, qui est fondateur de l'Institut européen du tourisme spatial sera avec nous. Il est auteur d'un livre incroyable sur le tourisme spatial avec une deuxième édition. François Chopard, qui est ingénieur aérospatial et fondateur et directeur général de Starbust, sera aussi avec nous. Je le disais tout à l'heure, Laura André Boyer, qui est instructrice de vol parabolique, sera avec nous aussi en visio depuis Cologne. C'est elle qui a entraîné un certain Thomas Pesquet.
C'est la seule femme française à entraîner les astronautes. Elle a entraîné une trentaine d'astronautes de l'Agence spatiale européenne, notamment. Donc c'est une...
Et oui, parce que évidemment, ça a des contraintes physiologiques hein, sur le corps humain, hein, le fait de monter dans l'espace.
Peut-on envoyer n'importe qui dans l'espace ?
Tout à fait. Ah. Et est-ce qu'il faut s'entraîner auparavant ? Parce que, évidemment, ça va changer la donne aussi de ce tourisme spatial qu'on peut imaginer. Et puis, on recevra deux startups très intéressantes aussi, des startups françaises qui visent la Lune, si je puis me permettre. Zefalto et Stratoflight, ce sera entre 21h et 21h30. Mais pour débuter, où est-ce qu'on en est ? Parce que, c'est vrai, Jean-Baptiste, on évoque souvent ce sujet dans Tech & Co, le tourisme spatial. spatiale, mais il est difficilement palpable. On voit des expériences de ci, de là, on voit ce qui est en train de se tramer, mais est-ce que c'est du concret aujourd'hui?
C'est un sujet qui est multiple. Alors déjà, c'est un sujet... Alors, pour être très honnête, j'avais oublié, mais que ça datait de si longtemps. Le premier touriste de l'espace, c'est 2001, avec Denis Tito, qui était un milliardaire, un millionnaire en l'occurrence, qui avait dépensé 20 millions de dollars pour partir dans la Station Spatiale Internationale avec les Russes, à bord d'un Soyouz. Donc, c'était le tout premier touriste spatial. C'est vrai qu'aujourd'hui, schématiquement, on distingue deux types de voyage spatial. On a le voyage suborbital, c'est-à-dire qu'on envoie un vaisseau ou une capsule pour faire une expérience de quelques minutes d'apesanteur. On voit évidemment la courbure de la Terre, on fait l'expérience de l'apesanteur et on revient vite sur Terre. Et puis de l'autre côté, on a les vols orbitaux. Alors là, pour le coup, le touriste va rester en orbite, comme son nom l'indique. Alors soit à bord d'une capsule, ce sera peut-être un petit peu plus tard, soit pour rejoindre la station spatiale comme l'ISS, ou bien d'autres stations spatiales.
On va en parler dans un instant, pour un
séjour qui est plus long. Et donc c'est là-dessus que se positionne notamment SpaceX ou alors son concurrent Axiom Space. On a aussi Blue Origin qui se positionne un petit peu là-dessus.
Blue Origin qui est la boîte de Jeff Bezos.
De Jeff Bezos, absolument. Et depuis 2001, on dénombre approximativement une vingtaine de touristes de l'espace. Alors, soit des militaires italiens, soit des milliardaires de divers pays.
Des comédiens aussi.
Avant le comédien, il y a eu Guy Laliberté qui était le patron du Cirque du Soleil, c'est pour vrai. Le coup. William Shatner. L'acteur William Shatner qui est en plus le commandant Picard et puis qui est le plus âgé à être parti dans l'espace. Il est parti à 90 ans. On en reparlera tout à l'heure parce que ça a des conséquences évidemment.
Mais c'est intéressant, ça veut dire que un être humain de 90 ans peut supporter un voyage dans l'espace. Alors c'était un vol, on va dire, parabolique là.
Oui, alors supporter, on en reparle, parce que quand il est revenu sur Terre, il était quand même particulièrement amoché physiquement. Et surtout psychologiquement.
Ça
l'a traumatisé. Quand il est revenu sur Terre, il a regardé Jeff Bezos. Il lui a dit, mais honnêtement, tu te fous de moi. Tu ne m'as pas préparé suffisamment à ce que j'ai vu. Quoi. Et c'est vrai que quand William Shatner s'est retrouvé à voir ce que disent souvent d'ailleurs tous les astronautes, tous les spécialistes de l'espace, quand vous regardez la Terre de l'extérieur, ce qui évidemment nous arrivera peut-être un jour ou peut-être jamais, j'en sais rien du tout, vous avez un déclic en vous. Et finalement, on se rend compte de la fragilité de l'écosystème, de la finesse incroyable de l'atmosphère, des choses comme ça. Donc, quand vous revenez sur Terre, en tout cas,
c'est un choc.
Il a d'ailleurs publié un livre quelques semaines après. Donc, il avait engueulé Bezos en lui disant, mais t'aurais pu me prévenir. Tu aurais pu mieux me préparer au voyage spatial. C'est peut-être un sujet, voilà. Côté tarif.
Oui.
Parce que le voyage spatial reste et restera encore pendant peut-être quelques décennies une niche qui va être réservée aux plus fortunés. Que certains appellent des pionniers, effectivement. Il faut compter entre 250 000 dollars, prix de base, pour un vol avec Virgin Galactic. Et si vous voulez prendre Axiom Space, allez vous installer dans quelques années dans une station spatiale pour faire comme Airbnb, 55 millions de dollars. Donc ça, voilà, on part entre 250 000 dollars et 55 millions.
Ouais,
ça reste pour l'instant vraiment.
Ça reste vraiment réservé aux plus fortunés, mais on peut imaginer que, bien évidemment, toutes ces entreprises travaillent sur non pas un tourisme de masse, mais en tous les cas industrialiser un peu tout ça pour que les prix baissent. On peut l'imaginer et l'espérer.
Il y a déjà une concurrence féroce, j'allais vous dire. C'est la nature qui déjà va s'occuper de faire le travail.
Oui, il va y avoir une concurrence naturelle, on va dire.
15, 20, on a de grosses entreprises de tourisme spatial, on a des nouvelles qui arrivent. On verra celles qui vont survivre, celles qui ne vont pas survivre, mais on en a des grosses qui ont du mal. SpaceX, pas de problème. Avec la fusée Falcon qui part comme
ça. Parce qu'il a un business parallèle d'envoi de satellites qui est florissant.
Aucun problème. Richard Branson.
Le pauvre. Ça fait un moment qu'il n'est plus dans l'espace.
Richard Branson a eu beaucoup avec Virgin, donc il a eu énormément de problèmes techniques ces derniers mois, à tel point qu'à un moment, les investisseurs commençaient à regarder Virgin en disant, mais mon coco, ça ne va pas pouvoir continuer.
Parce qu'il a un système un peu particulier. C'est un avion.
Il a un gigantesque avion sur lequel il vient placer, on verra sans doute des images tout à l'heure.
Un lanceur, voilà. Alors si vous êtes avec nous à la télé, on vous le montre. C'est un avion hors norme, un truc incroyable. C'est gigantesque.
Dessus, voilà, un espèce de planeur hypersonique incroyable qui va à une vitesse et donc qui va faire.
Donc l'avion monte en altitude.
Exactement.
Et là, après, le vaisseau
Et
voilà,
en fait,
voilà, vaisseau... voilà, pour ceux qui nous regardent à la télévision, voilà ce que vous pouvez voir. Voilà, alors il y a le lâcher du petit vaisseau.
Et donc William Shatner était là-dedans.
Alors non, William Shatner était dans une capsule. Lui, il n'était pas.
Ah d'accord.
Il n'était pas dans celui-là.
C'est, donc là, c'était
William
une fusée.
William Shatner était avec Bezos. Là, c'est Richard. Là,
c'est Richard Branson.
C'est Richard Branson. Je vais y arriver. Et donc Richard Branson a eu beaucoup de problèmes techniques pour arriver à faire ça. Ça paraît simple quand on voit les images, mais Dieu sait que c'est particulièrement compliqué.
Donc voilà. Branson qui a testé ça. Hein.
Il a testé lui-même. Absolument. Oui. Tout comme Jeff Bezos a testé lui-même sa capsule, comme Elon Musk aussi a testé Crew Dragon aussi sa capsule à une époque. Il y a même Boeing qui se lance là-dedans. Alors Boeing, effectivement, on va pas revenir sur les difficultés de la cabine.
Ils ont deux trois chats fouettés.
Mais Boeing a aussi des difficultés avec sa capsule parce que Boeing a une capsule qui s'appelle Starliner et il y a des années de retard donc c'est très compliqué. On ne va pas dans l'espace comme ça en claquant des doigts. Honnêtement, il y a Elon Musk qui, ces 10-15 dernières années, a surpris tout le monde, parce que tout le monde se moquait de lui il y a 10-15 ans quand il disait « moi j'irai dans l'espace ». Et bon, voilà. Après, ce voyage spatiaux, après, ben, on va en parler avec vous, nous pose une foule de questions absolument invraisemblables. Est-ce que l'espace est destiné à devenir un territoire de masse, où on va avoir des touristes qui vont peut-être... C'était la crainte des
militaires. Avec peut-être demain des d'immenses fusées qui seraient devenues des gros A380, des charters de l'espace.
Ce qu'on verra, comme on voit aujourd'hui au bord de nos côtes, des paquebots gigantesques avec 5 ou 6 000 personnes à bord. Est-ce qu'on verra demain, comme on peut le voir dans certains films?
Oui, d'immenses aéronefs qui pourraient...
C'est une question qui se pose. Ouais. Comment se gère l'espace civil et l'espace militaire? Parce que tous nos satellites qui sont autour de la Terre sont absolument vitaux pour nous, satellites d'observation, satellites de défense. Donc, il y a un combat qui s'est déjà engagé avec les militaires. Florence Parly, ministre des Armées, il y a trois ans, était furieuse quand elle parlait de ce sujet, parce qu'elle disait, mais on est dans l'espace Far West. Et elle souhaitait, en tout cas, les États souhaitent réglementer aussi. Voilà, donc il y a toute cette question-là. Et puis, bien sûr, on en reparle, il y a la question environnementale. Voilà.
Et capitale. C'est vrai que ce sujet arrive à un moment... où on se pose des questions concernant ne serait-ce que les transports en avion, on va dire. Et là, est-ce que c'est pas en fait une... On va dire un peu surréaliste de se dire qu'on va prendre des fusées ou des gros vaisseaux pour aller dans l'espace.
Au même titre, François, qu'on a eu ces dernières années un mouvement qui nous devenait des pays du Nord sur le flight shaming, la honte de voler parce que ça pollue, naît depuis quelques années, quelques mois, une sorte de space shaming.
D'accord.
Et qui peut potentiellement freiner l'essor du tourisme spatial.
Alors, on a parlé beaucoup d'Américains, avec donc Branson, Jeff Bezos, Elon Musk, mais il faut savoir qu'on a aussi des initiatives françaises que l'on doit à notre fleuron de l'industrie aéronautique. Il s'agit d'Airbus. Et Vincent Germain est avec nous sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur chez Airbus. Merci d'être avec nous. Défense and Space. Vous êtes aussi le chef de projet Starlab. Parce que c'est vrai, JB nous le disait tout à l'heure. Il y a des initiatives françaises pour emmener des humains dans l'espace. Et bientôt, il y aura donc, grâce à Airbus, une station en orbite basse qui sera fabriquée, je crois, en association avec un industriel américain, je crois. C'est ça ?
Exactement, tout à fait. Je rectifie, c'est pas moi le chef de projet Starlab, c'est un Allemand, il se trouve, mais j'ai intensivement participé à la mise en place de ce programme. Airbus s'est associé avec une entreprise américaine qui s'appelle Voyager Space. Et on a apporté toute la connaissance et un concept de station spatiale qu'on avait élaboré par avance avec dans certains programmes institutionnels et sur nos fonds propres. Et le rapprochement de ces deux entreprises, Voyager et Airbus, permet de sortir un concept qui aujourd'hui est très efficace. Parce que vous l'avez très bien présenté tout à l'heure, le spatial... Ça coûte, mais ça coûte pas uniquement parce que on n'est pas bon, parce qu'on n'est pas efficace, mais parce que physiquement, pour aller là-haut, il faut des moyens. Et ces moyens, on ne peut pas y déroger. À moins de trouver des futures technologies qui apparaîtront peut-être dans 100, 1000 ans, j'en sais rien.
Et c'est pour ça que ce sont les milliardaires américains qui investissent, on va dire, sans compter, j'ai envie de dire, parce que ils ont l'argent.
Alors, oui, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi un problème de société que vous n'avez pas évoqué, mais aujourd'hui, les États n'ont plus assez d'argent pour entretenir le spatial, et ils poussent à aller s'appuyer sur des commerciaux, sur des milliardaires, pour en tirer les bénéfices. Donc, on renverse un peu le paradigme, où avant, c'était les États qui développaient ces technologies très complexes, et aujourd'hui, les États s'appuient sur les commerciaux pour ensuite pouvoir en tirer les bénéfices. On parlait tout à l'heure des aspects militaires. Très probablement qu'il y a des aspects militaires qui vont bénéficier de développement réalisé grâce à ces milliardaires.
Mais le meilleur exemple, monsieur, c'est la NASA, finalement, qui commande des missions à un opérateur privé qui n'est autre que SpaceX et donc Elon Musk.
Exactement. Donc, dans le cadre de Starlab, le projet qu'on a en commun avec Voyager, c'est justement ce qui se passe. C'est la NASA qui a fait un programme qu'ils appellent Commercial LEO Destination, en anglais, qui vise à ce que la suite de la station internationale ne soit plus étatique, mais soit pilotée par des commerciaux et que eux, ils ne fassent plus qu'utiliser un service à bord.
Parce que Jean-Baptiste, excuse-moi, je te coûte, mais ce qui est intéressant, c'est que on arrive à la fin de la station spatiale, voilà, qui va mourir de sa belle mort. Je crois que tout est programmé et que le successeur en fait de ce lieu, ce sera en fait un financement totalement différent avec des perspectives aussi totalement différentes.
Ce que disait Vincent, hein, le New Space a complètement révolutionné l'accès à l'espace aujourd'hui. Les États effectivement lâchent progressivement la main au profit des entreprises privées. Et là quand même avec Starlab qui est censé, si je crois, prendre quand même la suite de la station spatiale internationale. Et je trouve ce sujet vraiment, cet exemple vraiment intéressant, Starlab, parce que je trouve qu'on est dans une charnière. On a tous vu ce qu'était l'ISS, la Station Spatiale Internationale, avec ces espèces de tubes dans lesquels il faut essayer de progresser en faisant attention que le marteau soit bien accroché.
À la fois technologique, mais rustique.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a cette petite rusticité, comme ça, que tout est accroché au mur, etc. Et là, Starlab, je trouve qu'on change d'univers. En tout cas, dans ce qui nous est présenté, on change d'univers. J'ai presque l'impression de voir ou d'imaginer les films de science-fiction qu'on a tous pu voir avec des capsules, avec plusieurs étages, avec des véritables espaces de vie.
Plus de design, finalement.
Plus de confort, en fait. Est-ce que c'est un peu l'idée aussi?
Alors, tout à fait. Ceci dit, l'enjeu de Starlab, ce n'est pas le tourisme. On a parlé beaucoup de tourisme spatial avant. L'enjeu de Starlab, c'est un laboratoire scientifique en orbite. Donc, ce qu'on essaie d'apporter, c'est un optimal d'investissement par rapport au retour scientifique en orbite. Pourquoi un laboratoire scientifique en orbite? Parce que la microgravité est un endroit où on peut développer des médicaments qu'on n'est pas capable de développer sur Terre, faire pousser des plantes qu'on n'est pas capable de faire pousser sur Terre. Les Chinois sont en train d'essayer de faire pousser du riz en orbite qui sera beaucoup moins sensible au changement climatique, par exemple. Il y a plein d'autres exemples, je ne les connais pas tous, je ne suis pas spécialiste organique, mais voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'optimiser scientifiquement. Alors, c'est vrai que les images qu'on vous montre là sont des images où on voit du confort, etc. Ça n'empêche que dans le travail qu'on fait aujourd'hui, on essaie de voir comment utiliser au mieux cet espace pour la partie scientifique. Et aujourd'hui, dans une station qui est lancée en un seul fois, sans assemblage en orbite, qui va être opérationnelle très rapidement, vous allez avoir la capacité de la Station Spatiale Internationale, sauf la partie russe. Donc, pour vous montrer le truc, hein, si on mettait la Station Spatiale Internationale à côté, on verrait la différence. Et on joue sur les nouveaux lanceurs, le diamètre, c'est-à-dire que l'espace est au carré du diamètre, et cette capacité d'avoir de l'espace à l'interne nous permet de mieux optimiser ça pour la science. Donc c'est un des enjeux, et là derrière, c'est quoi? C'est le coût.
Et là, Vincent, vous soulevez une question qui est fondamentale. Envoyer Starlab en une seule fois.
Oui.
Aujourd'hui,
alors que l'ISS, ça a été du Lego.
Et oui, aujourd'hui, sur le papier pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est capable de le faire, c'est Elon Musk. Avec Starship.
Oui,
Starship, c'est son vaisseau géant qu'il a expérimenté pour une troisième fois encore la semaine dernière. Oui. Le vol d'ailleurs.
Qui n'est pas totalement au point d'ailleurs.
Qui est loin, qui est très loin d'être au point. Il y a eu trois tentatives. Les deux premières ont été médiocres. La troisième s'est très bien déroulée. Oui. Alors certes.
Mais elle n'a pas pu réatterrir comme prévu.
Alors, on ne l'a pas récupérée, mais ce n'était pas le but. On a pu faire du transfert d'ergol en vol, enfin des choses quand même assez extraordinaires. Et en termes de charge, en termes de volume, seul aujourd'hui SpaceX, donc les Américains, il y a quand même une certaine dépendance pour le coup. Ce que ça veut dire que pour des futures stations spatiales et l'essor du tourisme spatial, on va être à nouveau dépendant des Américains, enfin, qui seront les seuls à avoir une fusée de taille conséquente.
Ou peut-être Ariane 6.
Ariane 6 n'aura pas la taille pour pouvoir envoyer des choses aussi conséquentes.
Alors, malheureusement, non. C'est une réalité. Hein. Effectivement, ce Starship est un enabler pour ce genre de choses. Et le savoir-faire d'Airbus nous a permis d'optimiser l'utilisation de Starship pour le bien de laboratoires scientifiques en orbite. Et ça, c'est la technologie au service non pas du commercial, etc., mais au service de l'optimisation.
Pardonnez-moi, vous avez conçu Starlab en pensant à Starship.
Exactement. Si on arrive à obtenir la capacité de l'ISS, sauf la partie russe, en un seul lancement, c'est parce qu'on a été là. Et parce qu'on a cherché à comprendre comment ça nous permettait d'optimiser. C'est vraiment l'essentiel.
Donc alors, vous travaillez avec les équipes de Starship de manière conjointe sur ce projet ?
On n'a pas besoin pour l'instant parce que le principe c'est quoi ? Le lanceur est défini aujourd'hui à peu près, parce qu'on sait tous que quand les lancements se font, ils sont en train de faire des essais, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont...
On a d'ailleurs vu des images de l'intérieur en plein vol la semaine dernière, ce qui était une première.
Oui, le show.
Incroyable. Hein.
Alors, oui, alors donc, peut-être que ça va un peu évoluer, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un manuel lanceur qui dit il y a tel volume, telle hauteur, et si vous regardez les dimensions de Starlab, eh bien, vous verrez que c'est la hauteur de la coiffe du lanceur Starship, le diamètre, okay. On prend toute la place, et c'est dans un but d'optimisation. Et donc, effectivement... Pour l'instant, on sera dépendant de Starship et le rapport entre Ariane 6 et Starship fait que ça sera une autre génération de lanceurs. Je veux juste dire un mot sur l'aspect, on a l'impression que c'est milliardaire et c'est ce New Space invente des choses très nouvelles. Quand on regarde Starship, c'est plutôt une invention industrielle qu'une invention réelle de technologie. Il n'a pas inventé un nouveau booster, mais il en a mis 33. Et il sait les mettre ensemble, il sait les produire vite, etc.
Donc il a augmenté une technologie qui était déjà présente.
Et sa force, c'est d'utiliser des technologies éprouvées.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'il
ne
va pas les chercher...
Il ne prend pas trop de risques, finalement.
Il en prend quand même,
oui.
Mais il va les prendre sur l'industriel, oui. Il va les prendre sur la réutilisabilité, il va progresser.
Vincent, juste une question, parce que vous disiez que votre Starlab fonctionnera au début pour la recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à creuser un peu votre projet, on voit Hilton... Dans vos partenaires potentiels. Hilton, c'est quand même une chaîne d'hôtels. Ils vont pas là-bas pour faire de la recherche, quand même.
Alors,
donc, il y a peut-être aussi une bribe de tourisme spatial derrière tout ça.
Alors, non, il n'y a pas vraiment de bribe de tourisme spatial. Ceci dit, nos partenaires américains ont peut-être dans la tête d'aller après lancer une deuxième
station. Donc, Voyager Space.
Voyager Space a peut-être dans la tête d'aller lancer une station spatiale pour faire du tourisme. Hilton apporte... ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils font de la recherche dans la partie tourisme, enfin, habitation spatiale. Quels sont les enjeux de l'habitation dans le spatial? Quels sont les problèmes que ça pose et comment on les résout? Par exemple, il y a beaucoup de bruit dans une station spatiale parce qu'il y a une ventilation énorme, sinon le CO2 s'accumule et on a des problèmes en microgravité. Ils regardent des systèmes pour que le confort des astronautes soit meilleur. Donc, Hilton, il travaille là-dedans. Et nous, ce qui nous intéresse dans le consortium aujourd'hui, c'est qu'ils vont nous aider, parce qu'à bord, il va y avoir des astronautes, ils vont nous aider à optimiser, comme ils optimisent dans un hôtel, hein, si dans vos chambres d'hôtel, je ne parle pas du grand luxe, mais je parle des hôtels optimisés, ils savent exactement quelle surface il faut pour être à peu près bien, comment on organise les choses pour que ce soit
la chambre,
pratique.
La salle de bain...
Et donc, ils vont nous aider dans l'optimisation de l'espace intérieur. Mais c'est sûr que dans d'autres programmes, ils pourraient aider à aménager pour du tourisme. En tout cas, nous, Airbus, ce n'est pas du tout notre but. Ils nous aident vraiment dans ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire mettre les choses en place à l'intérieur de manière à ce que ce soit le plus efficace pour les astronautes.
On arrive au bout du temps. Juste une dernière question, malheureusement. Tout petit mot. C'est prêt, vous en êtes où dans le développement? On est sur 2028, 2030,
alors,
en termes de date?
La date de lancement prévue aujourd'hui, c'est 2028. Ce sont des programmes complexes. Il y a beaucoup de développement.
Du retard, hein, en plus.
Donc, pour l'instant, on est dans les temps. Toutes les revues qu'on a faites sont dans les temps. On est au début du développement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été impliqué dans le programme. C'était pour essayer de s'assurer qu'on allait en mettre les choses en place correctement et aller assez vite. Très probablement, d'ailleurs, qu'on a un peu de marge encore dans la Station Spatiale Internationale pour prendre la suite, puisqu'elle est prévue pour être désorbitée en 2030. Mais on doit pouvoir probablement la prolonger encore un peu après. Ce qui laisse un peu de marge.
Merci beaucoup Vincent Germain d'être
avec
passé
plaisir
par le plateau de Tech & Co pour cette spéciale donc l'avenir de l'espace et pourquoi pas le tourisme spatial. Vous êtes donc ingénieur chez Airbus Défense and Space et vous participez donc à ce projet Starlab. Jean-Baptiste, on revient dans un instant, l'info éco. Et on repart bien évidemment avec nos autres invités. Michel Messager sera là et François Chopard en visio. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Et avec en fil rouge à mes côtés, Jean-Baptiste Huette, journaliste à BFM Business, passionné d'aéronautique et de spatial, qui me prête main forte pour cette émission. Le tourisme spatial, on a évoqué plein de choses passionnantes. C'est rigolo parce qu'on a reçu une dépêche aujourd'hui d'un autre projet étonnant. C'est un restaurant dans l'espace. Alors c'est fou parce que bon, le menu est à $500,000, hein, donc c'est pas donné.
Très modestement. Hein.
Mais vous êtes à 30 km d'altitude, vous êtes dans une espèce de sphère en quelque sorte, voilà, avec plein de vitres, hein, bien sûr, pour qu'on voit un petit peu la rotondité de la Terre.
Et sans sachet lyophilisé.
Sans sachet lyophilisé. Oui, parce que c'est un chef étoilé, hein, qui vous sert à manger en plus.
C'est un exemple intéressant de. Alors même si le tourisme spatial n'est pas encore très développé, c'est un doux euphémisme, mais c'est quand même un exemple intéressant dans la proposition de service. C'est-à-dire que les futurs relais de croissance du tourisme spatial ne sont pas dans le simple fait d'envoyer le touriste voir la Lune, voir la Terre et de redescendre sur Terre. Mais
c'est une expérience.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout se digitalise, on possède moins, effectivement, on achète des usages aujourd'hui. C'est un peu la même chose pour l'espace. Donc on a ce restaurant-là. Je sais qu'Elon Musk travaille sur des projets, notamment des options de sortie extravéhiculaire pendant un voyage. Donc voilà, on a cette proposition de service comme ça qui sera un futur relais de croissance possiblement pour les entreprises de tourisme spatial.
Alors c'est une entreprise de Floride, hein, qui s'appelle Space Perspective, qui a mis ça au point. Et on vous montrait des images à l'instant, hein, si vous êtes avec nous à la télé ou en replay. Il y a un immense ballon en fait qui fait envoler cette capsule dans laquelle quelques privilégiés, donc pour un menu de, on le disait, $500,000, peuvent déguster des bons plats comme ça à 30 km d'altitude. Michel Messager est avec nous, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Je sais que vous avez envie de réagir sur ça. Dans un instant, mais
c'est
je voulais.
C'est méchant ce que vous avez dit.
attendez, bougez pas. Je présente aussi François Chopard qui est avec nous en visio. Bonsoir François.
Bonsoir François.
Ingénieur aérospatial, fondateur et directeur général de Starburst Accélérateur qui est avec nous aussi. Et je tenais à remercier toute l'équipe de prod et l'infographie de BFM Business pour nous avoir fait ce très beau plateau ce soir. J'ai l'impression d'être William Shatner, si tu vois. Hein?
Avec quelques années en moins encore.
Ah oui, avec quelques années en moins. Merci beaucoup. Je suis un picard, mais moins surgelé, si vous voulez. En gros, c'est un peu ça. Bon, elle est douteuse un peu. Michel, vous vouliez réagir sur ce restaurant spatial?
Bon, d'abord, premièrement, la capsule, elle existe, elle va partir. Hein, c'est une société américaine. Oui. Et puis, bon, c'est vrai que c'est très cher, mais c'est quand même pour une fondation, une donation. Hein.
Ah d'accord, donc voilà. il n'y a pas que des velléités commerciales
non,
derrière tout ça.
Il n'y a pas que des velléités, d'ailleurs si vous voulez, c'est là aussi où est le spatial, hein, si vous voulez manger moins cher dans le spatial, vous avez un restaurant à Paris, je ne donnerai pas le nom, mais qui est complètement comme si vous étiez dans l'espace, et ça aussi.
Oui, c'est une
toute
expérience.
Toute cette partie, ça fait partie de l'espace. Alors, on a parlé beaucoup des fusées, mais il faudra aussi parler
mais
du reste.
Vous pouvez donner le nom du resto, hein. Franchement, moi, ça m'intéresse.
Ça s'appelle, je ne sais plus, enfin, vous pourrez le trouver. C'est quelqu'un qui fait de l'immersion.
Ah
alors,
oui,
vous pouvez
bien
aller
sûr.
Sous la mer.
Tout à fait.
Vous pouvez aller dans
exactement.
Ce restaurant.
Et en fait, ils changent de thème de temps en temps.
Non, non, là, ils ont gardé quasiment le thème. Ah, okay. Ils mettent des restaurants avec plusieurs thèmes.
Mais ils ne faisaient pas auparavant un thème, justement, sous la mer ou en
si,
manger.
Ils ont commencé et ils ont ouvert un deuxième. C'est une fille qui a trentaine d'années.
Oui, ouais, c'est clair.
Et c'est formidable parce que les enfants viennent, etc. Et donc, c'est à voir. Et il y en a partout dans le monde. Hein. En France, il n'y en a qu'un. Mais partout dans le monde, il y en a. Et pour moi, ça aussi, ça fait partie du tourisme spatial.
Et pour tout vous dire, je les avais reçus dans Tech & Co, justement, oui. les fondateurs de cette société. Michel, pour vous présenter, donc, vous êtes fondateur de l'Institut européen du tourisme spatial, vous êtes auteur de plusieurs livres, hein, sur le sujet. Alors, celui qui date de 2022, vous m'avez engueulé parce que c'est pas la bonne version, c'est le tourisme spatial, deuxième édition pourtant, hein,
oui.
Mais ça va vite.
Mais ça va vite.
Que vous avez commis donc il y a quelques années. Vous avez ce nouvel ouvrage, donc, là, Tourisme spatial et santé.
Oui.
Sujet qu'on évoquera tout à l'heure avec notre invité qui a entraîné Thomas Pesquet, parce que évidemment, est-ce que le corps humain est fait pour rester plusieurs heures comme ça en apesanteur, toutes ces questions-là. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Depuis tout à l'heure, on évoque le tourisme spatial. C'est un sujet sérieux, le tourisme spatial aujourd'hui.
Écoutez, là, comme vous dites, moi j'observe beaucoup et je ne suis pas ingénieur de formation, mais je suis dans le tourisme depuis longtemps. Et je suis en train de faire un ouvrage qui va s'intituler 75 ans de tourisme spatial. Vous voyez qu'on n'a toujours pas beaucoup bougé, puisque en 1950, la première expérience sur le spatial, c'est une agence de voyage qui a ouverte pour aller sur la Lune. Les gens ont payé leurs billets, etc. Bon, ils ont toujours le billet, on ne sait pas s'ils ont... Mais ça a été la première fois, alors je ne devrais pas le dire, parce que je suis ancien agent de voyage. Et puis moi, j'ai remonté...
Non, mais c'était des arnaqueurs, ces gens-là,
Écoutez, les arnaqueurs existent toujours, puisqu'aux États-Unis, on vous vend toujours des lots de terre lunaire, etc.
Vous savez,
les gogos, il y en a partout. Bien sûr que c'était un arnaqueur. Mais voilà, mais on a commencé à parler avec ça. Et depuis 75 ans, on parle du tourisme spatial. Alors c'est vrai qu'il y a des avancées très importante. Mais on va aller. Mais c'est le problème du tourisme spatial. Maintenant, je crois qu'il y a trois problématiques. Il y a le problématique si demain il y a un accident.
Ouais.
Ça s'arrête tout de suite. Donc les gens ont quand même peur.
Question de sécurité, certification.
Deuxièmement, ce que l'on voit, c'est le frein écologique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, malgré tous les efforts que font les SpaceX et Bezos, etc. La deuxième chose, c'est le médical, on en parlera, mais là aussi. Et puis, moi, j'ai fini une commande sur le tourisme spatial et les assureurs. Parce que les gens, les futurs touristes, ils vont vouloir aller. Mais vous savez, on veut y aller, mais en étant assuré. Hein. Eh bien, en ce moment, il n'y a plus d'assurance. Et ça, c'est un gros problème.
Il n'y a plus d'assurance.
Les assureurs ne veulent plus assurer.
Ne veulent pas assurer le vol spatial.
Mais non.
Pourquoi ? Parce que c'est trop risqué ?
C'est trop risqué. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça se chiffre par milliards. L'année 2003 a été énorme. Donc tout ça.
Mais c'est Branson qui a eu pas mal de soucis, non ? Avec son.
Oui, mais
son...
eux, ils ne sont pas assurés.
Ah oui ?
Alors, si vous voulez.
Quand on est milliardaire, c'est ça qui est cool. Tu n'es pas obligé d'être assuré.
Toutes ces choses-là, il y a la partie technique dont je ne parlerai pas, parce que vous avez un grand spécialiste que j'admire d'ailleurs, parce que. C'est quelqu'un qui prend des risques, et au moins de voir des Français qui prennent des risques, c'est rare. Mais vous avez tous ces petits problèmes qui peuvent, vous voyez ce que je veux dire, freiner le tourisme spatial.
Vous parlez de l'environnement, évidemment, qui est un sujet fondamental. Oh. Je disais tout à l'heure, on a eu ces mouvements qui venaient du Nord, de la honte de voler pour les avions. Maintenant, on voit apparaître, effectivement, le space shaming. Est-ce que pour vous, honte de voler, de l'espace ou cette détestation des touristes spatiaux, est-ce que ça peut être un véritable frein?
Oui, ça peut être un véritable frein. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne fasse pas assez de publicité ou qu'on ne communique pas assez. On communique beaucoup sur le technique, mais on ne communique pas, par exemple, sur tout ce que l'on fait. Les recherches au niveau des nouveaux carburants, les nouvelles fusées, les satellites. Vous savez, il y a tant de tonnes qui se baladent au-dessus. Et par exemple, les Japonais sont en train de faire un satellite en bois, pour justement quand il tombe, personne n'en parle, je veux dire. Et donc ça, il faut voir tous les efforts. Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier que nos futurs passagers de l'espace, ça va être des gens qui ont aujourd'hui entre 15, 20, 25 ans. Et eux, demandez-leur aller faire des cours en disant ils préfèrent s'occuper de la Terre plutôt que de l'espace. Ah, voilà. Et ça, c'est un point, parce que c'est les futurs passagers.
Oui. Alors François, j'aimerais vous donner la parole. Donc je rappelle que vous êtes ingénieur aérospatial, fondateur et directeur général de Starbust Accelerator. Vous êtes souvent passé par le plateau de Tech & Co. Je vous repose la même question que j'ai posée à Michel tout à l'heure. C'est sérieux vraiment le tourisme spatial malgré toutes les embûches que Michel vient de nous raconter?
Alors le tourisme spatial, c'est vrai que ça se développe. Mais je dirais qu'en tant qu'investisseur, c'est pas forcément la première chose qu'on va regarder. Et aujourd'hui, le tourisme spatial se développe parce que il y a de plus en plus de projets de stations spatiales qui émergent. On a parlé de la décommission de la station spatiale internationale. Et donc, on a à peu près entre 4 et 6 projets qui sont en train d'émerger de stations privées. Et donc, tout le monde se pose la question de comment on va les remplir. La principale manière de les remplir, ça va être à terme, par faire de la production dans l'espace, et à plus court terme, encore de faire des expériences physiques, chimiques, pour tester des nouvelles applications. Et à la marge, une manière supplémentaire de remplir ces stations spatiales, c'est de faire venir des touristes. Ensuite, quand on parle de tourisme spatial, il y a une grande variété. Ça va de passer une semaine dans la station spatiale internationale. Et aujourd'hui, on en a quelques-uns qui vont sous forme de touristes. On n'appelle pas ça des touristes, mais ils restent une semaine. Donc, c'est pas vraiment. C'est différent de ceux qui restent 6 mois. Mais, et en plus de ça, on a Virgin Orbit de Branson et puis Blue Origin de Bezos qui démarrent. Un vol dans l'espace qui monte à 100 km d'altitude, dans lequel on passe quelques minutes en apesanteur et le vol dure 2 heures. Mais ceux-là ont eu des petits soucis techniques et donc pour le moment, c'est en pause. Donc c'est vrai que tout le monde regarde, mais ça avance pas. Depuis une dizaine d'années, ça avance pas comme on aimerait. Et ensuite, pour atteindre la station spatiale, pour le moment, on n'a qu'un seul lanceur qui est SpaceX, que tout le monde s'arrache au final, tout le monde commercialise, mais ça fait que quatre sièges tous les trois mois ou un peu plus, on aimerait bien, mais ça fait encore plus de personnes qui vont dans la station spatiale de manière régulière.
Donc c'est un marché, on l'a bien compris, naissant. François, alors il y a pas mal de bruit autour de vous. Je vous avoue que la qualité de connexion n'est pas très bonne. On a l'impression que vous êtes un peu dans un vaisseau spatial là qui est au décollage. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Mais petite question malgré tout, puisque vous êtes dans les finances, vous, est-ce que comment réagissent les investisseurs par rapport à ces sujets? Est-ce qu'ils sont frileux? Est-ce qu'ils y vont malgré tout quand les projets sont bons?
Alors, il y a eu une grosse vague d'investissement en 2021 avec des introductions en bourse, avec des gros tours de financement aux États-Unis qui ont fait que les investissements dans le domaine du spatial ont atteint quasiment 20 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Depuis, ça s'est un peu baissé. Les investisseurs ont réalisé que ça n'allait pas aussi vite que prévu et que ça allait prendre un peu plus de temps. Néanmoins, et je dirais, et encore une fois, principalement aux États-Unis, on a des gros investisseurs. Donc je dirais que l'argent aux États-Unis n'est jamais un problème. C'est pas le cas en Europe, malheureusement, mais l'écosystème en Europe se développe et on commence à avoir des startups, y compris des startups françaises, qui font des tours de financement à 50, 100 millions, avec lesquels on commence à pouvoir faire quelque chose.
Alors chez Starburst Accelerator, justement, est-ce que vous soutenez, vous accompagnez des startups qui sont plus ou moins liées au tourisme spatial?
Alors, oui, Starburst, je le répète, nous, on intervient très tôt. On a fait à ce jour à peu près 160 investissements. Et les startups dans lesquelles on a investi commencent à émerger. Il y en a une, notamment, qui s'appelait Launcher au début, qui faisait une fusée et qui a rejoint un groupe un peu plus gros qui s'appelle Vast, basé à Los Angeles. Donc, c'est un milliardaire qui a fait fortune dans les bitcoins et qui, lui, veut créer la première station spatiale qui va tourner sur elle-même et donc qui, à la différence de ce qui existe aujourd'hui, va générer un champ gravitationnel et qui fait qu'on n'aura plus cet inconfort avec le sang qui monte à la tête ou une difficulté à manger. Ouais. Et pour ça,
le meilleur exemple, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça ressemble un peu à la station spatiale d'Ulysse 31 quand on était petit, c'était un dessin animé qu'on regardait. Ouais. Hein, donc, avec une boule au milieu et puis un arceau qui tourne et qui génère un jet de gravité et qui est quand même beaucoup plus confortable pour les humains. Donc, on a investi, on suit, on a monté un premier accélérateur pour accompagner des startups qui vont travailler sur tout ce qui est biotech dans l'espace. Et évaluer à la fois la santé humaine dans l'espace et ce qu'on peut fabriquer comme molécules, comme cellules qui grandissent plus vite et mieux dans l'espace pour amener sur Terre. Et là, on lance un programme dans quelques semaines avec la NASA et Microsoft pour justement continuer à accompagner ces startups qui veulent produire des molécules, des semi-conducteurs ou d'autres choses dans l'espace.
François, juste un mot, je complète sur ce que vous disiez. À un instant, vous nous disiez les investisseurs, le tourisme spatial, c'est pas forcément ce qu'on va regarder en premier. François vous a posé la question vous avez parlé de frilosité, mais très concrètement, vous qui êtes au contact quotidien, régulier avec des investisseurs de toute nationalité, qu'est-ce qui les inquiète vraiment? Est-ce que ce sont, comme on évoquait il y a quelques instants, les questions environnementales qui peuvent inquiéter, freiner les velléités de certains investisseurs, ou bien des business models qui ne sont pas très clairs, qui ne sont pas très bien établis? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Allez où cette frilosité? Où vous la percevez en tout cas?
D'un point de vue américain, elle n'est clairement pas sur les sujets environnementaux. Ouais. On le voit bien, que ce soit dans l'aviation ou dans le spatial, c'est une problématique très française ou européenne, c'est pas du tout une problématique américaine, même s'ils lancent des programmes de réduction de CO2 et qui sont aussi actifs, et que la Californie est probablement un des États les plus actifs au monde. Donc c'est pas ce point-là. Non, c'est qui au final, qui va payer, quelle est la taille du marché au final, qui peut se payer un déjeuner à 500 000 dollars ou pour le moment le ticket dans l'espace c'est 80 millions pour aller passer une semaine dans la station spatiale. Donc premièrement, qui peut payer, et puis deuxièmement, qui peut fournir ce type de service? Et pour le moment, On a beau dire ce qu'on veut, mais il n'y a que SpaceX qui a et une fusée et une capsule qui vont envoyer du monde dans l'espace. Donc ça reste un marché restreint. Et donc, c'est légitime que les investisseurs et nous, on se pose ce genre de questions.
Merci beaucoup, François. Michel,
oui, je crois
parce qu'aujourd'hui, ça coûte une fortune, on le disait,
oui, de partir dans l'espace. Bien sûr, ça coûte une fortune, hein, mais bon, comme dirait, mais bon, c'est peut-être pas très dans l'air du temps de dire ça, mais il y a le patron de Space Adventure. Lui, il a dit, il est parti d'un constat simple, hein, il y a 800 milliardaires dans le monde et 20 millions de millionnaires, donc ça fait déjà
pas mal.
Monde, ça fait déjà pas mal. Bon, mais ça, c'est... Bon, mais il faut être clair, je veux dire.
Mais c'était un peu le début, comme... enfin, pour... ben, au début
pour
de l'aviation,
tout,
c'était
quand
ça.
Quand vous preniez un billet à Paris-New York, c'était ça. Bon, c'est vrai que quand on dit 125 000 dollars, c'est cher, etc. Mais bon, je veux dire que vous allez faire un trek au Népal, c'est le même prix. Donc, je veux dire... Ça sera jamais du tourisme de masse, du moins
enfin,
pas tout de
suite. 125 000 dollars un trek au Népal, on est dans du 5 étoiles plus
ah oui,
plus
non,
quand même.
Mais...
On a toute une non.
C'est confortable.
C'est confortable.
Oui, mais
on est bien.
Il faut payer les guides. Enfin bref.
Oui.
Mais enfin,
sûr.
Moi je crois que on est au début. Là, par exemple, cette année, je pense que ça va être les ballons.
Oui.
Parce que les ballons, il y en a deux qui vont partir. Hein, et notamment les Français qui sont bien placés. Bon, ça va faire rêver, etc. Et puis moi j'ai regardé un peu sur. Il y a deux études qui sont sorties de banques américaines. Bon, je sais bien qu'en ce moment, les études et les prospections, c'est un peu difficile, mais enfin, tous les deux, sont pour une fois, sont d'accord. À l'horizon 2040, le tourisme spatial, alors ce que j'arrive pas à savoir, c'est si uniquement quand on est en l'air ou avec toutes les infrastructures autour, mais ça sera 1000 milliards de dollars. Et c'est Merrill Lynch et une autre, et Citibank qui l'ont fait. Donc, je veux dire, il y a une demande...
Il y a un business.
Quand Virgin est passé en bourse, on a vu tout de suite l'action qui a monté, car descendu, il a relancé un vol, il y a eu tout de suite un apport de trésorerie. C'est pour ça que d'ailleurs que, là aussi, il y a un problème hein, chez Virgin, il y a un problème de coût. Hein. Il est parti, comment s'appelle-t-il ?
Richard Branson. Richard
Branson est parti, mais il a fait quand même deux développements de capital. Donc je pense qu'on y croit beaucoup, et je pense qu'on est à l'aube. Mais maintenant, c'est vrai que ça stagne un peu, comme l'a dit le précédent orateur. Bon, ben Virgin, ça marche bien, mais il s'arrête pendant deux ans parce qu'il va mettre des... Le problème, c'est qu'il faut que ça soit plus grand. Il n'a que quatre passagers, donc il va faire passer son vaisseau à six ou huit passagers. Et surtout, ce qui est important, il va faire deux vols par semaine. Bon, mais deux vols par semaine, ça sera pas assez quand même, et c'est dans deux ans. On avait beaucoup d'espoir aussi sur Bezos. On n'entend plus parler de sa capsule. Et le problème, je crois, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont commencé comme Bezos, qui se tournent maintenant, qui sautent le pas pour aller vers la Lune. Tout le monde, maintenant, est dans le lancement sur la Lune. Donc, il faut qu'on prenne ses repères. Mais je pense que ça va se développer. Et derrière, encore une fois, moi, je vois le nombre de parcs d'attractions, le nombre d'hôtels à thème, le nombre de musées. C'est énorme ce qui se passe. Là, je rentre des pays de l'Est, ils vont monter un parc à thème uniquement sur le spatial. Les Émirats sont en train de faire la même chose.
J'allais vous le demander justement. Vous avez une vision internationale.
Mais assez... voilà, parce qu'on a beaucoup ru quand ils ont mis le parc Ferrari. Tout le monde a dit, Ferrari en plein dessert. Ça fait des centaines de milliers de personnes.
Bien sûr.
Or, ce parc Ferrari, pour nous les Français, c'est pour ça que je me bats, moi, pour le tourisme spatial, pour l'emploi. Ça fait autant de gens qui ne vont pas venir en Europe au parc Euro Disney. Et MBS est en train, à la ville de Neom, là, qui va monter un parc spatial.
Il y a même un spaceport qui est prévu, non,
bien
je crois.
Bien sûr, oui, mais ça, des spaceports, ils en font partout. Alors, le plus beau coût du tourisme, et ça vient de sortir, et là aussi, on en a très peu parlé, c'est SpaceX, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur...
Elon Musk.
C'est quand même un génie. Il a signé un accord avec les Bahamas, écoutez-moi bien.
On va pouvoir partir en fusée en maillot.
Alors,
ça va être
justement,
top.
Il va avoir des spaceports pour ramener ces capsules. Entre-temps, il monte un musée, parce que bien sûr, le terrain, il va avoir tout gratos, mais en échange, il monte un musée, il donne des cours sur le spatial, il va monter un centre d'entraînement, et bien sûr... Bahamas, je sais pas où ça a été, mais des fois les communications sont un peu... Ben, il leur fait cadeau de Starlink. Et voilà le premier état touristique où les gens...
Dédié au spatial.
Voilà.
Et ça va devenir un immense parc d'attractions.
Et les gens vont regarder les fusées. Est-ce bien ou est-ce pas bien l'année Moi, je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a des problèmes écologiques et tout qui vont survenir. Mais voilà une base qu'il a à 60 km des États-Unis. Eh bien.
C'est intéressant la vision que vous avez, mais pardon de vous couper, mais je trouve la vision que vous avez sur le tourisme spatial est assez intéressante parce que c'est vrai qu'on l'envisage benoîtement, uniquement tourisme spatial, ça se passe dans l'espace et pas ailleurs. Et pour le coup, vous la voyez d'abord, en fait, j'allais dire, le tourisme spatial commence d'abord sur Terre.
C'est des centaines de milliers d'emplois que l'Europe est en train de perdre en ne faisant pas du vol habité. Si je reprends l'histoire de Kennedy. On a lancé les gens sur la Lune. Mais on a dit America first, on a rendu une population fière et on a développé les emplois. Qu'est-ce qu'a lancé l'ISS ? Ronald Reagan, American first, et on a développé. Et je veux dire, moi je...
Enfin, c'était un projet international, non, l'ISS ?
Oui, mais celui qui a lancé le projet.
Oui, en fait,
après, il y a eu le Canada, la France,
etc. La locomotive,
etc.
C'était les États-Unis, d'accord.
Celui qui a remis de l'argent et qui a dit maintenant il faut monter, retourner sur la Lune, c'est Trump. Donc, je veux dire, il y a ce côté nationaliste de projet, mais surtout, ça crée des emplois. Et là, c'est énorme ce qu'on est en train de perdre, parce que tous ces projets qui sont montés en Inde, etc., de centres spatiaux, de ceci, c'est énorme. Et quand vous voyez aujourd'hui les fusées, par exemple, partir d'aéroports du Mexique, de Virgin, vous ne voyez rien. C'est le désert total. Oui, mais tout est acheté. Centre de congrès, centre de formation, etc. Vous avez un Français que vous avez reçu, François Gaume.
Nicolas Gaume. Exactement.
Bah, qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Gaume ? Il monte, à part envoyer du vin, il a créé, à côté de la Floride, un camp d'entraînement pour privé.
Ouais, il a même un projet d'hôtel un peu.
Il y en a un à Toulouse aussi qui s'est monté. Il y a plein de mini-projets. Et ça, je veux dire, c'est de l'emploi. Et c'est de l'emploi qualifié. Et je veux dire, les jeunes qui sont baignés dans la technologie, voilà. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que l'Europe ait des vols habités et que le tourisme spatial, c'est ça qui va les amener et faire rêver les gens.
François, juste dernière question rapidement. C'est vrai que bon, la France et les vols habités, c'est un fantasme. Quand on voit le retard qu'on a pris avec Ariane 6, etc., c'est pas pour tout de suite.
Oui, malheureusement. Néanmoins, ce serait une bonne manière d'utiliser Ariane 6. Cependant, elle n'a pas été conçue avec un niveau de fiabilité suffisant pour le moment pour permettre le vol habité. Donc, il y aurait des développements supplémentaires à faire pour par-dessus la fusée. Mais c'est vrai que, pareil, je rêve d'avoir que l'Europe ait une capacité de vol habité, qu'on soit autonome et indépendant, parce que c'est une source de revenus, d'emplois, de compétences qui s'exportent très bien. Et on voit bien aujourd'hui, tout le monde veut voler avec SpaceX parce que c'est le seul véhicule qui est disponible. On voit les pays du Middle East, les pays d'Asie du Sud-Est. Ils volent avec la NASA quand ils sont affiliés. Sinon, ils volent avec Axiom, qui est une société privée basée à Houston qui vend des sièges sur la fusée SpaceX. Donc oui, ça a marché. Et je suis d'accord, le gros du marché spatial sera au sol, sous forme d'hôtels, d'entraînement.
Mais quand on voit déjà le succès des Epcot Center, qui pourtant ce sont des parcs d'attractions qui existent depuis les années 80, ils font des cartons incroyables. On voit que Disney est en train de se diversifier avec la licence Star Wars. Enfin, l'espace fait rêver l'humain. Et il y a plein de gens qui n'auront pas les moyens de monter dans l'espace, mais qui voudront vivre des situations, voilà. En tout cas des expériences qui ressembleront à celles des astronautes.
Des parcs comme Vulcania ou comme le Puy du Fou, mais orientés vraiment sur des activités spatiales.
Et ça, on aurait toute la légitimité de le faire à Toulouse avec, évidemment...
Alors, ils ont commencé une attraction dans ce sens-là.
Mais modeste encore, on n'est pas...
Mais non, il en faudrait beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci Michel Messager d'être passé par le plateau de Tech & Co, fondateur de l'Institut Européen du Tourisme Spatial, et vos livres bien évidemment disponibles un peu partout. Et merci à François Chopard, ingénieur aérospatial et fondateur et directeur général de Starburst Accélérateur. Bientôt 21h, on va attaquer notre dernière partie de ce Tech & Co dédié au tourisme spatial avec tout à l'heure deux startups
que nous découvrirons Jean-Baptiste Zefalto et Stratoflight, deux startups françaises qui veulent justement privilégier et faire découvrir en fait les vols spatiaux à des tickets quand même assez importants, mais moins que ceux qu'on a évoqués il y a quelques minutes.
Plus accessible.
Et puis nous aurons aussi dans quelques instants en visio Laura André Boyer qui est instructrice de vol parabolique. Elle nous racontera comment on peut entraîner en fait les futurs astronautes et peut-être un futur Jean-Baptiste Huette à partir dans l'espace. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, on imagine le tourisme spatial et peut-être comment dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourra envisager l'espace avec Jean-Baptiste Huette dans ce Tech & Co, la quotidienne exceptionnelle, avec une multitude d'invités passionnants. Et par visio maintenant, j'accueille Laura André Boyette. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes instructrice de vol parabolique. Vous êtes consultante experte en vols spatiaux habités au Centre européen des astronautes. Vous, depuis 2010, vous travaillez au Centre des astronautes européens à Cologne. Hein, d'ailleurs, c'est là où vous êtes actuellement, en Allemagne. Et vous avez déjà formé plus d'une vingtaine d'astronautes, dont un certain Thomas Pesquet, visiblement. C'est vrai ça? Vous avez formé Thomas?
Oui, on forme tous les astronautes qui se rendent à bord de l'ISS, donc c'est beaucoup plus qu'une vingtaine. Donc tous les astronautes européens, mais aussi tous les astronautes des pays, des nations partenaires de l'ISS, donc les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada aussi.
Et alors, donc, on s'est trompé sur les chiffres, mais vous en avez formé combien? Alors allez-y.
Alors, c'est difficile, on a plutôt une quantité d'astronautes en entraînement spécialiste et de mission par an, mais en fait, il y a une redondance dans la formation, on est obligé d'avoir un maintien aux aptitudes. Donc, qui sont partis, on va plutôt tabler sur une soixantaine.
Et juste en clin d'œil, vous êtes d'ailleurs la seule Française à occuper cette fonction, et donc c'est plutôt à saluer. Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le tourisme et la santé, et on va dire les particularités physiques hein, qu'il faut développer pour envisager voilà, un vol spatial. Laura, c'est compliqué, enfin je veux dire... Jean-Baptiste et moi, est-ce qu'on pourrait demain se faire un vol de quelques heures comme ça, un vol parabolique, sans entraînement? C'est jouable?
Alors, là, on entend l'importance de la sémantique. Il y a effectivement différents vols. Donc là, vous pointez du doigt quelque chose d'important. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on se rend? Est-ce qu'on fait un vol parabolique? On ne sort pas de l'atmosphère. Hein. C'est un vol à bord d'un avion. Après, il y a des vols suborbitaux, les vols orbitaux, les vols où on va venir s'arrimer à une station spatiale et on va rester potentiellement... longtemps. Donc, tous ces paramètres vont nous permettre de sélectionner et de former en regard des besoins. Plus un vol va être long, plus on va devoir être préparé et sélectionné aussi sur des critères physiques particuliers, effectivement.
On évoquait, Laura, tout à l'heure le cas, alors emblématique, j'en sais rien, mais de William Shatner, qui était parti avec Jeff Bezos, alors qui pour le coup avait fait un vol suborbital, mais qui était parti à 90 ans, donc on a vu a priori qu'il pouvait résister plutôt pas mal, mais quand il est revenu sur Terre, il a engueulé Jeff Bezos, et il lui a dit, mais c'est pas possible, Jeff, tu m'as pas prévenu. Alors pas physiquement, mais psychologiquement. Et justement, est-ce que votre rôle consiste aussi à travailler sur la psychologie, évidemment, sur l'importance que les impacts psychologiques que voir notre fragile planète Terre et notre toute petite atmosphère, quels impacts que ça peut avoir psychologiquement? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez?
Alors, moi, je travaille sur les vols habités à destination de l'ISS, qui sont des vols très cadrés, avec des astronautes principalement institutionnels, professionnels. Mais avec Axiom, on a pu accueillir aussi une nouvelle population, avec des gens qui sont sélectionnés sur d'autres critères, parfois qui sont des critères financiers ou des critères de nationalité. Donc, ça vient un petit peu faire varier le panel des personnalités qu'on vient former. Donc, effectivement, nos astronautes institutionnels, professionnels, on les sélectionne et fait partie de la sélection des critères très précis au niveau de la psychologie. Donc, on est plutôt isolé de certains cas critiques. Avec une diversification et une démocratisation de l'activité, on va pouvoir potentiellement s'exposer à des risques certains. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les effets psychologiques, ils ne sont pas seulement observés à moyen ou long terme, on peut les observer très rapidement, qu'ils soient même suborbitales. Donc, le confinement, l'isolement, le stress, mais aussi cet overview effect dont certains astronautes parlent, le fait de voir la Terre depuis l'espace, ça, c'est un impact psychologique assez fort. Mais pour répondre plus précisément à votre question, on forme très peu les astronautes professionnels institutionnels parce qu'on les sélectionne énormément. Donc, on vient se prémunir, en fait, d'avoir à effectuer un entraînement à ce niveau-là.
Est-ce qu'à votre avis, Laura, les civils lambda que nous sommes pourront un jour les échéances sont très lointaines, mais est-ce qu'on peut envisager d'ici 50, 60 ans des véritables paquebots de l'espace, mais vraiment dans des immenses structures remplies de voyageurs comme on le voit dans nos paquebots sur nos côtes pour le coup, mais qui seraient vraiment dans l'espace, hein, c'est-à-dire à plus de 80, 100 km d'altitude, donc on serait dans l'espace. Ça impliquerait de fait effectivement des visites médicales absolument massives, il faudrait explorer, enfin, tout le monde, poser des questions à tout le monde. Est-ce que ça, pour le coup, on n'a pas là quelque chose qui pourrait freiner définitivement ou interdire le tourisme de masse dans l'espace ?
Vous voulez dire interdit à cause du risque physiologique ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas contrôler physiquement tout le monde. C'est, j'imagine que les tests doivent être assez compliqués, pour le coup. Si chaque passager qui montait dans un paquebot, il fallait savoir s'il
avait des caries. À moins qu'on arrive à recréer dedans la gravité, par exemple. On vous écoutera.
Moi, j'espère qu'on le limitera pour d'autres raisons. Vous n'avez pas trop parlé, ou alors ben, j'arrive un peu tard, mais vous n'avez pas trop parlé en fait des réglementations. Alors, on parle de la sécurité et des risques physiologiques et psychologiques, mais on est quand même dans un vide juridique absolu qui laisse la place à beaucoup de choses, y compris des choses dangereuses pour les personnes, mais aussi pour la planète et pour l'espace extra-atmosphérique aussi. S'il y a un incident, un accident, c'est un impact sur les personnes, les finances, mais aussi sur des débris dans l'espace extra-atmosphérique. Donc en fait, peut-être qu'on pourra avoir techniquement et d'avoir suffisamment de gens qui sont à même de pouvoir partir. Moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir véritablement organiser ça décemment vis-à-vis des autres types de risques que l'on présente ?
Vous qui suivez évidemment toute cette activité de près, est-ce que vous voyez que ça bouge et que le tourisme spatial commence à prendre, on va dire, un petit peu de son envol, sans mauvais jeu de mots, parce que vous évoquiez tout à l'heure que, effectivement, vous entraîniez des astronautes, mais aussi sur des critères financiers, parfois. Ça veut dire que on peut imaginer que des civils fortunés peuvent passer cet entraînement, hein. Je crois avoir bien compris, hein. C'est ce que vous disiez ?
Il n'y a pas à l'imaginer, ça existe déjà, hein, donc.
D'accord.
Depuis quelque temps, on a accueilli des touristes à bord de l'ISS qui sont partis avec des véhicules Soyouz, qui pour le coup se sont entraînés longuement, hein, qui s'entraînent chez nous, donc nous ça nous rassure un peu parce qu'ils viennent chez nous, ils viennent à bord de l'ISS. C'est principalement une histoire de coût. Il y a des enjeux aussi pour certaines nations qui décident d'utiliser cette plateforme commerciale avec une forte visibilité pour positionner en fait des citoyens en orbite basse dans une durée relativement courte, ce qui est somme toute très intéressant. Donc voilà, ça existe déjà.
Parce que ce qu'on a peut-être omis de dire dès le départ, c'est que l'être humain a été conçu pour avoir une gravité. On est d'accord, hein, on reste debout. La gravité terrestre fait que on a été conçu pour ça. Quand on est comme ça, quand on perd cette gravité et qu'on se retrouve dans l'ISS, ça a un impact, j'imagine, sur notre physiologie, sur nos organes. C'est grave, docteur. Si on reste dans l'ISS.
Non, je ne suis pas docteur, mais ça m'intéresse de vous répondre. En fait, effectivement, quand on est dans l'espace, il y a deux choses. Il y a l'impesanteur, donc on n'est plus soumis à la force de gravité, on a un impesanteur, et ça a plein d'effets. On est beaucoup moins protégé aussi par l'atmosphère terrestre, donc ça a des gros effets aussi. Et puis, il y a effectivement cette image sur notre cortex visuel qu'on peut avoir de la distance de la Terre. Donc ça, au niveau sensoriel, c'est ma façon de résumer les choses. L'impesanteur, c'est le truc qui est quand même compliqué. On a des effets immédiats au niveau du système vestibulaire, au niveau de l'oreille interne. Tout est un petit peu chamboulé, on est désorienté. Ça rentre dans l'ordre en général au fil du temps sur les missions de moyenne et de longue durée. Mais déjà à court terme, immédiatement, en impesanteur, on a cet effet-là. On peut potentiellement avoir des effets psychologiques aussi. L'exposition aux radiations, elle est immédiate et puis elle va se cumuler. Le plus on va rester longtemps en orbite basse ou dans l'espace extra-atmosphérique, le plus on va être irradié. Et puis au niveau cardiovasculaire aussi, on a notre cœur et notre système cardiovasculaire qui immédiatement va fonctionner différemment et sur le long cours, qui va même s'affaiblir au niveau du système musculaire et au niveau du système osseux. Sur les missions de longue durée, on a une déminéralisation et une fonte musculaire. Et puis après, on a des choses qui se passent au niveau du système immunitaire, au niveau de la vision. C'est pas jojo, psychologiquement. Ça peut être compliqué, c'est toujours impactant. Fort heureusement, quand on revient sur Terre, presque tout est réversible, excepté l'irradiation. L'irradiation, on ne peut pas l'enlever.
Merci beaucoup Laura pour toutes ces explications, c'est passionnant. Vous êtes instructrice de vol parabolique et consultante experte en vols spatiaux habités au Centre européen des astronautes. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes depuis Cologne, donc en Allemagne. JB, deux startups à découvrir dans un instant, liées évidemment au tourisme spatial. Deux exemples concrets sur le plateau de Tech & Co tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Vincent Farré d'Astiès nous a rejoint. Bonsoir Vincent.
Bonsoir François.
PDG fondateur de Zefalto. Et Arnaud Longobardi est avec nous. Bonsoir, bonsoir Arnaud. Vous êtes pilote de ligne et vous êtes aussi fondateur de Stratoflight.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous tous les deux. Je disais tout à l'heure avec Jean-Baptiste, on va maintenant rentrer dans le concret avec deux startups qui, explore un petit peu l'espace à votre manière. Alors Stratoflight, vous vous êtes associé avec Expluo pour construire une capsule capable d'envoyer 6 personnes aux limites de l'espace, c'est ça Arnaud?
Oui c'est ça, c'est un projet qui monte à environ 35 000 mètres avec 4 passagers et 2 pilotes. Ce projet est assez connexe à l'aviation et au spatial puisque c'est une navette équipée un peu comme un avion mais sans moteur. Et donc on met 2 pilotes pour un peu avoir une garantie de sécurité équivalente à ce qu'on a dans l'aviation.
Et comme vous êtes pilote, ça sera vous le premier qui emmènera tout ça dans les airs.
C'est ça, c'est moi qui fais les tests. On a déjà une banque de pilotes. Enfin, on a 4 pilotes, j'ai recruté 3 pilotes pour faire cet équipage, ce premier équipage.
Et tous les deux, si je ne m'abuse, vous remettez au goût du jour une invention vieille comme le monde, en tout cas la montgolfière, enfin en tout cas le principe pour monter comme ça une capsule, c'est le système que vous utilisez ?
Oui, c'est ça, c'est un ballon identique en ce qui concerne mon projet, en tout cas Stratoflight, à celui qu'utilise le CNES en tout point, mais avec une capacité d'emmener une charge importante.
Quelle masse d'ailleurs vous pouvez...
Une tonne 8 à 2 tonnes.
Alors expliquez-nous, donc le ballon décolle, vous avez votre vaisseau qui est accroché, c'est ça, votre avion ? Ça ressemble à quoi, un avion ?
Ça ressemble à une navette spatiale, un avion, c'est un hybride entre les deux.
Ok. 35 km d'altitude, le ballon décroche.
35 km d'altitude, les passagers vivent une expérience unique, c'est-à-dire une sortie type extravéhiculaire sur le balcon, sous gravité évidemment, on n'est pas dans l'ISS, équipé d'un scaphandre, comme on peut voir.
Enfin, quand vous dites un balcon, c'est un vrai balcon ?
C'est un vrai balcon, avec une porte qui s'ouvre, et à l'arrière, un balcon. Avec une ligne de vie, évidemment, pour sécuriser les passagers. Donc les passagers sortent, apprécient la vue.
Avec une combinaison, parce qu'évidemment, il fait froid, il n'y a plus d'oxygène.
Évidemment, oui. On a besoin de suppléer aux besoins physiologiques des passagers.
Ça sert à quoi d'être dehors, en fait ? On ressent mieux l'espace que d'être derrière une grande vitre ?
Oui, c'est très différent. Ça, c'est sûr que c'est différent. C'est comme si vous prenez un avion et vous êtes dans la carlingue et une montgolfière où vous êtes dehors. C'est pas du tout la même expérience. C'est l'expérience unique de Stratoflight, c'est qu'on offre aux passagers plusieurs choses, mais dont celle-ci, qui est la sortie extravéhiculaire extérieure pour contempler l'environnement, mais aussi pour mettre des capteurs, des études scientifiques sur ce balcon. C'est pas qu'un véhicule destiné à des passagers.
D'accord. Et donc après, au bout d'un moment, on redescend.
On redescend, on dégonfle le ballon, on redescend à une altitude de l'ordre de 8000 mètres. Et là, la navette se libère du ballon et on va ouvrir une voile et on va rentrer sur Terre par un pilotage précis, type avion de ligne, mais sans moteur, et en se dirigeant et en choisissant un terrain d'atterrissage.
D'accord. Qui sera le même lieu que le terrain de décollage ?
Pas forcément. Il y a une base de données, une banque de données importante de terrains accessibles qui seront différents, ça dépend des vents. La difficulté des projets uniquement ballon, c'est l'ascension, mais c'est aussi le retour sur Terre, où on se pose un peu n'importe où, dans la forêt, enfin dans ce qu'on peut. Moi, j'ai pas voulu ça pour Stratoflight, par mes origines de pilote de ligne et de pilote d'essai de mini-voile de parapente. J'ai souhaité qu'on se repose à un endroit précis, sur un terrain possible, accessible, il y en a beaucoup. Potentiellement.
Mais ça ne peut pas être une piste d'atterrissage d'un aéroport.
Tout à fait, ça peut être une piste d'atterrissage. Après, la cohabitation entre un avion et une navette, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On préfère avoir des terrains dédiés pour Stratoflight. C'est des petits terrains, hein. C'est 300 mètres de long sur 50 mètres de large.
Ah oui, d'accord. Donc ouais. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'autant de place que pour un avion de ligne, quoi, pour atterrir.
Oui, non, il me faut beaucoup plus avec mon Airbus pour me poser qu'avec ma navette.
Ok, vous pilotez quel type d'Airbus ?
Un Airbus 320 moyen courrier.
Oui, c'est déjà pas mal. Développement donc d'une version à l'échelle qui est en cours. Vous en êtes où en fait dans le projet de
Eh bien, là, on en est à la construction de la navette. Elle est actuellement en construction, elle sera finie dans 3 mois. Et ensuite, je dois intégrer tous les systèmes, la voile, l'instrumentation de bord, une somme de choses importantes pour prétendre à faire un premier vol de démonstration.
Vous pilotez des avions, donc la question que je vais vous poser, vous la connaissez par cœur. L'Agence européenne de sécurité aérienne, la certification de ce type d'engin.
Oui. Le Graal.
Le Graal, parce que effectivement, obtenir la certification, c'est dantesque.
Complètement.
Comment ça se passe ? Vous en êtes où ? C'est fait, c'est pas fait ?
C'est en discussion, ouais. Évidemment. Il y a deux phases dans le projet. Il y a une phase expérimentale, qui est beaucoup allégée par la réglementation, évidemment. Et il y a une phase certification où, évidemment, l'ESA et l'EASA ont leur mot à dire. On a besoin d'eux, d'ailleurs, pour faire évoluer, d'une part, la réglementation et l'accès à la stratosphère avec ce type de véhicule.
Ça coûte combien ?
Ça coûte.
Enfin, ça coûtera combien ?
J'ai pas le prix exact, c'est pas que je veux pas le donner, mais ça dépend de mes négociations avec la combinaison spatiale d'astronautes qu'on est en train de discuter. Donc ça coûterait aux environs de 250 000 euros. Mais pour une expérience multiple. Il ne s'agit pas de monter dans le véhicule, être assis et redescendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et que je veux proposer à mes passagers une expérience multiple.
Très bien, vous restez avec nous, bien sûr, Arnaud. Vincent Farré-Dastiès, donc Zéphalto. Alors, vous, capsule pressurisée.
Oui.
D'accord. Et avec un voyage, vous n'avez pas peur d'employer les mots luxueux, etc., pour voir la rotondité de la Terre, c'est ça ? Et la nuit spatiale.
Alors oui, c'est une altitude à laquelle on va être plongé dans l'obscurité spatiale pour découvrir la Terre dans son halo bleuté. C'est vraiment une expérience de contemplation. On voit sur les images qu'on a des hublots qui sont extrêmement grands, qui font presque 3 mètres de large. Donc il y a vraiment une expérience, le temps se suspend, autant suspend ton vol, comme on dit.
25 km d'altitude.
Voilà, c'est l'altitude à partir de laquelle on est dans le noir de l'espace. Et donc on a un ballon au-dessus de nous qui nous élève lentement. Alors c'est... On travaille avec le CNES depuis 7 ans. On a un partenariat exclusif de transfert technologique avec eux. Et du coup, on se base sur tout leur savoir, héritier de leurs 60 ans de savoir-faire. Plus, ce qu'on développe, nous, c'est une enveloppe réutilisable. C'est-à-dire que nous, vraiment, on a à cœur d'avoir l'exploration spatiale ou stratosphérique. Et je tient plus beaucoup à l'exploration qu'à d'autres termes qui font plus consommateurs. Moi, je pense qu'il y a vraiment des gens qui viennent avec nous et qui viennent contempler.
Oui, c'est culturel, quasiment. Enfin,
Vous faites bien de le dire. On est en train de développer tout un projet culturel. Alors, vous savez, on est très ancré. La société Zéphalto est née dans l'Hérault, et déménagée à Toulouse. On est très ancré dans la région Occitanie qui nous a soutenus depuis le début. Et avec eux, on monte un projet qui est culturel, industriel, artistique même, parce que voilà, toutes les applications le ballon, c'est aussi quelque chose qui sollicite énormément les imaginaires et qui est extrêmement pédagogique, qui va parler à tous de 7 ans à 77 ans, mais c'est même 7 mois à 107 ans. Et on est ravis d'emmener tout ça avec nous. Il y a vraiment ce côté intérêt général, finalement, scientifique aussi également. On bosse avec le CNES depuis le début, donc forcément, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Voilà, c'est toute cette expérience-là qu'on emmène avec nous.
La toile de votre ballon, est-ce qu'elle a
des capacités scientifiques, technologiques particulières. Enfin, c'est une toile spéciale ou alors c'est une toile lambda qu'on pourrait utiliser pour aller voir les châteaux du Périgord ou en montgolfière.
Alors, si vous voyez les châteaux du Périgord, il faut juste que vous puissiez aller à moins 80 degrés.
Mais c'est ça.
Et exposer. Non, c'est une toile, un film très très spécial, des matériaux qui vont résister donc en particulier aux basses températures, qui vont rester souples à ces très basses températures. Évidemment, parce que le ballon va se déployer énormément avec son ascension. Donc, évidemment, bah, c'est beaucoup de développement là-dessus. C'est vrai qu'on s'appuie sur l'héritage des 60 ans d'expérience du CNES, mais on développe également ces ballons qui sont réutilisables, donc plus robustes, qui vient amener d'une part un bilan carbone plus bas, ça nous tient vraiment à cœur, et ensuite diminuer des coûts, mais également qui va amener de la robustesse. Parce que vous parliez tout à l'heure de certification, eh bien, entre envoyer des télescopes sous un ballon, il y a un facteur de sécurité qui va être petit, mais quand on emmène des passagers, des voyageurs, là c'est plus du tout la même chose.
Maximale.
Et avoir un ballon qui est réutilisable, ça le rend aussi également beaucoup plus robuste et beaucoup plus sécurisant. Parce que jusqu'à l'atterrissage, où le ballon va se déplier doucement, et on choisit donc bien son terrain d'atterrissage, on n'a pas de limite d'endurance, pas de limite de temps de vol en ballon. Donc autant en montgolfière, on choisit déjà son terrain, mais on a une demi-heure chrono pour le choisir. Là, eh bien, s'il y a un terrain qui ne va pas, on peut attendre 2 heures. C'est pas... Donc voilà, on choisit vraiment le terrain sur lequel on atterrit.
C'est le point commun que vous avez tous les deux, non ? Le ballon, finalement ?
Oui, bien sûr. C'est le moyen d'ascension le plus green pour monter à haute altitude et en stratosphère.
Ça pollue, un ballon ?
Ça pollue pas, quasiment pas, très très peu.
Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est un gaz qui chauffe en fait une toile. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors là, vous parlez de la montgolfière, le ballon à air chaud. Oui. Là, on va être un ballon à gaz.
À gaz, d'accord.
Donc, c'est un gaz qui est extrêmement plus léger que l'air. Ça va être de l'hélium ou de l'hydrogène. L'hélium, c'est un gaz rare, donc on a tendance à le garder pour les applications médicales.
D'accord.
L'hydrogène, l'avantage, c'est qu'on aussi maintenant on commence à faire de l'hydrogène vert.
Là, d'accord. Et donc là, c'est vrai que.
Et là, on vient avec d'un bilan carbone extrêmement bas. Alors pour les spécialistes, en scope 1, on tombe à 27 kg par passager. Grosso modo, un Paris-Lille en voiture. Voilà. Donc quelque chose de très très modeste eu égard à l'expérience.
Aujourd'hui vous êtes à 25 km d'altitude et 35 pour là. Est-ce que vous pouvez monter encore plus haut ? Ce que j'allais vous dire,
c'est...
vous me promettez l'espace, mais c'est vrai que le vrai espace, comme on dit, démarre à 80-100 km. Là où on commence, alors on n'a plus d'atmosphère, on n'a plus rien. Effectivement, pour le ballon, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez la possibilité de monter un petit peu ou...
Non, on ne pourrait pas, pour des raisons de sécurité. On pourrait techniquement le faire, monter à 40 km, enfin, en ce qui concerne Stratoflight, puisque le ballon n'est pas réutilisable. Donc, mon ballon pèse 1,4 tonne avec une épaisseur de 15 microns. Certainement beaucoup plus fin que ce qu'utilise M. Farid Astier. Et on pourrait monter techniquement plus haut, mais après, pour des raisons de sécurité, on ne va pas le faire. De toute façon, entre 35 km et 40 km, il y a peu de différence. Une fois qu'on a passé 20 km, là, il y a une vraie différence. Donc, on n'est pas dans l'espace, évidemment, mais on est à la frontière de l'espace. En tout cas, on a un visuel qui se rapproche de ce qu'on pourrait voir dans l'espace.
Pour les scientifiques, c'est intéressant, hein. C'est la ligne de Kármán.
Eh ben, oui, ouais, c'est la ligne de Kármán.
Qui délimite, en fait, l'espace, qui est à 100 km.
À 100 km, hein,
c'est ça.
Tout à fait.
Donc, c'est intéressant, on est loin encore.
Là, on est aux portes de l'espace. C'est vrai que ce qu'on voit sur les vues, on voit cette expérience, cette overview effect, comme en parlent les astronautes, cette expérience, cette bouffée de contemplation et d'émerveillement qu'on a, qui est extrêmement émouvante. Et après, aller plus haut, c'est vrai que c'est tout simple, il suffit d'avoir un ballon plus grand. Alors nous, on n'a pas de limite, on construit déjà nous-mêmes nos ballons, et on n'a pas de limite. On a déjà des structures qui font 100 mètres de long pour les faire. On va développer une structure donc près de la région toulousaine, une usine encore un peu plus grande du côté de Muret, donc de 140 mètres de long, qui va nous permettre de faire des ballons de plus en plus grands. On peut aller aussi de plus en plus haut.
L'un comme l'autre, pardon, je vous ai coupé, mais l'un comme l'autre, vous mettez en avant quand même le service. Vous, alors effectivement, le fait de pouvoir aller sur une petite, un petit balcon pour pouvoir observer comme ça l'espace. Vous, des banquettes très confortables avec un petit coin toilette, enfin, tout ça très cosy, etc. Donc c'est de la proposition de valeur ajoutée. Dans vos business models, vous devez proposer absolument quelque chose en plus pour les clients. Le simple fait de monter dans le manège, si j'ose dire, et d'aller voir si ça ne suffit plus. Vos clients vous demandent et vous demanderont demain sans doute... toujours un petit quelque chose en plus. On parlait tout à l'heure de dîner très luxueux avec François. C'est des choses aussi qu'on pourrait imaginer à bord de vos ballons.
C'est un choix de proposition de prestation. Je pense que Stratoflight est très différent du projet Zefalto. Nous, En ce qui nous concerne, on ne propose pas une restauration gastronomique, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Je préfère proposer une expérience pilote, une expérience astronaute entre guillemets, et une expérience scientifique. Inclure le passager plus dans la mission en tant qu'acteur que d'être passif et pourquoi pas de déguster quelque chose à haute altitude, mais c'est pas ce qu'on veut chez Stratoflight.
Et dans l'avenir, enfin dans le, un peu plus tard, pour des futurs relais de croissance, que sais-je, toujours.
Eh bien, l'avenir déjà, si on arrive à faire Stratoflight jusqu'au bout, ce sera déjà assez accompli. Déjà. J'ai pas pensé à plus tard.
Hein. Et donc vous, l'expérience, c'est ce que disait Arnaud. Donc on aurait un repas, voilà, on pourrait se rafraîchir, etc. Il y aurait comme un bar, c'est ça ?
Voilà, l'idée, c'est vraiment aussi, on est dans un domaine où beaucoup de personnes viennent chercher quelque chose d'exceptionnel, et donc ils vont avoir à disposition à bord, on va finalement le personnaliser, l'expérience. C'est-à-dire qu'on va voir avec eux aussi ce qu'ils souhaitent, les accompagner dans cette grande émotion. Il y a vraiment ce côté-là, expérience accompagnée.
Oui, c'est intéressant, ça rejoint un petit peu le projet qu'on évoquait tout à l'heure de ce restaurant qui pourrait se retrouver à 30 km au-dessus de la surface de la Terre, qui est un projet incroyable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est issu d'une boîte qui est en Floride, je crois. Donc, on se rapproche un petit peu de ce que vous imaginez.
C'est vrai qu'il y a quelques temps, il y avait des gros titres qui disaient ben voilà, un dîner à 25 km en parlant de notre expérience, parce que comme on était le candidat français, forcément c'était un dîner. Alors voilà, notre défi, ça va être, puisqu'on là on vole très bientôt, on vole vraiment, voilà, la capsule est prête, tout est prêt pour faire un premier vol avec le prototype, et bien voilà, on va essayer de vous offrir des belles images d'un beau dîner. Et
eh ben écoutez, vous viendrez nous en parler tous les deux. Merci beaucoup Vincent Farré-Dastiez, donc PDG fondateur de Zefalto, et Arnaud Longobardi, pilote de ligne, donc, et fondateur de Stratoflight. On se tient au courant.
Merci beaucoup.
Bien évidemment. Merci
à très bientôt,
Jean-Baptiste, d'avoir été à mes côtés pendant cette heure
et
demie.
Merci François.
Passionnant, hein, cette émission sur le tourisme spatial. On n'a posé qu'un dixième des questions qu'on voulait poser, parce que forcément, évidemment, les sujets ne manquent pas. J'espère en tous les cas que vous avez passé un bon moment avec nous. Replay podcast de cette émission qui vous attendent, bien évidemment. Jean-Baptiste, que vous retrouvez au quotidien sur BFM Business. Et moi, j'aurai le plaisir d'être là demain soir, bien sûr, dès 20h pour Tech & Co, la quotidienne, avec un format un peu plus traditionnel. À demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.